Radio Capine, grand témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Mukatsung Mwambu Henri, il est député honoraire et secrétaire général du Front de Libération Nationale, FNLC. Monsieur Mukatsung, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci madame pour votre invitation.
Alors, c'est quoi FNLC?
Le FNLC, c'est le Front de Libération Nationale Congolais. C'est une organisation politique aujourd'hui, politico-militaire anciennement, qui a pour objectif, comme le mot le dit, la libération de la nation congolaise.
Politico-militaire anciennement, c'est-à-dire en quelle année?
Politico-militaire, dès sa création jusqu'en mai, le 17 mai 1997.
Le jour de l'arrivée de l'AFDL à Kinshasa.
Exactement, madame.
Alors, on va parler un peu de ce mouvement politico-militaire anciennement.
Oui.
Alors, c'est un mouvement qui a vu le jour en Angola.
Oui, c'est un mouvement qui est né exactement en Angola. Ce sont de citoyens congolais, zaïrois à l'époque, qui se sont retrouvés en Angola et qui ont décidé de créer ce front pour libérer leur pays.
Citoyens congolais ou zaïrois à l'époque, comment se sont retrouvés en Angola? C'est des familles, des gens qui vivaient en Angola ou bien c'était des réfugiés qui étaient en Angola?
Ah, là, il faut maintenant une petite visite sur l'histoire en disant que après l'indépendance de notre pays, il y a eu, comme vous le savez, cette période durant laquelle il y a eu de tendances de séparation entre Congolais. Il y a eu ce qu'on appelle la sécession katangaise, sous la direction de M. Moïse Tshombe. Et alors, dans cette démarche-là, M. Moïse Tshombe s'est doté d'une force armée pour défendre ce que pour lui devait devenir la République du Katanga. Eh bien, cette force armée s'est appelée la gendarmerie katangaise. Il y a eu des années de lutte, depuis le 60 jusqu'en 63 pratiquement. Il y a eu le concours de la communauté internationale qui est venu dans le cadre de l'ONU. Et Moïse Tshombe s'est vu contraint à renoncer à son idée
de sécession.
Il a renoncé, il est venu au pouvoir central. Quand il a renoncé à l'idée de la sécession, les gendarmes qu'il avait, il a trouvé bon de les envoyer en Angola, à l'époque encore colonie portugaise, où il avait des amis qui géraient cette colonie-là et qui commençaient aussi à s'affronter à la lutte nationaliste des Angolais. Mais quand Moïse Tshombe vient au pouvoir central à Kinshasa, eh bien, il y a ce qu'on appelait à l'époque, les Mumbistes, qui se sont regroupés au nord-est de notre pays, à Saint-Léville, et qui ont commencé à lutter contre le pouvoir de M. Mobutu. Eh bien, M. Moïse Tshombe, étant Premier ministre ici, avait aussi accepté de faire rentrer au Congo ces ex-gendarmes katangais qui étaient en Angola avec les Portugais, qui sont rentrés dans l'armée nationale ANC et qui sont partis à Kisangani, Saint-Léville à l'époque, pour lutter contre les nationalistes congolais.
Qui cherchaient à faire tomber le régime de Mobutu.
Donc, à partir de ce moment-là, il y a déjà une étape qui est marquée. La gendarmerie katangaise n'existe
plus
en Angola. Ses compatriotes sont rentrés, ils ont été admis, comme on l'a fait après nos contradictions de 98. Ils ont été intégrés dans l'armée nationale, ils sont allés lutter dans le cadre de l'armée nationale. Et sont revenus. Quand la situation a été calmée à l'Est, eh bien, ses compatriotes qui se retrouvaient au sein de l'armée nationale ont commencé à être victimes de persécutions. Ce qui a, de nouveau, imposé à ses compatriotes de s'enfuir. Quelques-uns d'entre eux qui ont pu se dégager ont fui, sont rentrés en Angola, où ils avaient des connaissances. Mais d'autres, malheureusement, ont été massacrés ici. Donc, à ce moment-là, les gens rentrent. Mais ce n'est plus pour la sécession du Katanga. Les gens comprennent que les choses venaient de mal commencer, parce qu'on vient, soi-disant, pour faire une armée nationale, et au sein de l'armée nationale, on commence à voir des divisions sur base d'appartenance tribale,
régionale,
ethniquement. Les gens ont dit, bon, ça ne va pas. Et c'est à partir de ce moment-là, non seulement les gendarmes katangais qui étaient venus ici et qui étaient retournés en Angola, mais d'autres Congolais qui analysaient la situation, l'évolution de la situation dans notre pays, et qui sont arrivés à la conclusion que les choses ne marchaient pas dans les sens qui permettraient un bon développement du pays, ont commencé aussi à s'opposer. Et tous ces gens-là commençait à se retirer vers l'Angola. Alors,
Seulement vers l'Angola? Pourquoi tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le pouvoir de Mobutu se retiraient vers l'Angola?
Bon, pourquoi vers l'Angola? Parce que en Angola, c'est un terrain qui était déjà, disons, connu par ceux qui étaient là avant dans les cadres de la gendarmerie katangaise. Et aussi pourquoi? Bon, parce que, à l'époque, pour bien dire, le voisin du Congo, tous les voisins du Congo étaient pratiquement indépendants. C'était difficile pour quelqu'un de fuir les Zaïre à l'époque pour se réfugier dans un pays dans lequel le Zaïre exerçait une certaine présence, parce que le Zaïre, de par sa grandeur, était le pays le plus influent de la région, et il avait donc le pouvoir d'imposer un point de vue aux dirigeants des autres pays. D'ailleurs, l'histoire le témoigne bien, sauf en Angola, à cette époque-là, eh bien, les Angolais commençaient eux aussi à mener une lutte pour obtenir leur libération.
Leur indépendance.
Voilà. Donc c'est dans ces cadres-là que les gens ont préféré aller là-bas, peut-être pour
se préparer afin de venir faire tomber le régime.
Exactement, exactement.
Les gendarmes katangais qui ont quitté l'armée nationale pour entrer en Angola, ils sont arrivés là-bas sous une autre appellation, ils ont formé un nouveau mouvement.
Oui, justement, les gendarmes katangais, bon, ils étaient combien à l'époque? Pas plus de 2000, vous comprenez madame? Pas plus de 2000. Et aujourd'hui, les FLNC, quand il est venu en 97, il comptait plus de 14 bataillons.
En Angola, ils ont commencé à procéder au recrutement?
Ils ne pouvaient pas recruter en Angola parce que l'Angola n'était pas leur pays. Plutôt, il y a les gens qui commençaient à fuir le Zaïre à l'époque pour aller en Angola.
C'est votre cas?
Non, ce n'est pas mon cas.
Vous avez quitté le Zaïre pour aller rejoindre ce mouvement en Angola?
Moi, à l'époque où je devais partir en Angola, j'étais un agent officiel. J'étais géologue de l'État zaïrois. J'étais en mission de service. J'étais en même temps préfet des études d'un institut, l'Institut Moussoumba. J'ai cumulé les deux fonctions. C'est dans ce cadre-là que la première guerre du Chaba me trouvera à Moussoumba. C'est à partir de là, comme un officiel du Zaïre, que je vais être ramené en Angola.
Comment ça? Expliquez-nous un peu. Vous avez été ramené en Angola par qui et comment?
Moi, j'étais géologue de la région et en même temps préfet des études. Je suis venu à Kolwezi à l'époque.
Nous sommes au Katanga là.
Oui, au Katanga, oui, à Kolwezi. Eh bien, j'ai contacté les responsables du ministère de l'Éducation là-bas. J'ai défini certains points avec eux et je suis rentré à Moussoumba. Quand je suis rentré à Moussoumba, le 8 mars, eh bien, la ville était occupée par ce qu'on appelait les gens de l'Angola. Moi, je ne connaissais pas encore ces gens-là. Je n'avais aucun lien à l'époque avec ces gens. Mais, les circonstances faisant, j'ai été obligé à cette époque-là de m'approcher de ces gens, comprendre leurs revendications et voir si ces revendications étaient vraies. Eh bien, moi-même, en faisant l'analyse sur ce que ces gens disaient, ce que ces gens nous reprochaient à l'époque, reprochaient au président Mobutu dans sa gestion de l'État, eh bien, j'ai trouvé qu'il était tout à fait normal et tout à fait révolutionnaire d'adhérer à l'organisation de ces gens-là. Donc moi, j'ai adhéré au FLNC pratiquement au mois de mars 1977.
Alors au FLNC, vous avez occupé des hautes fonctions. Vous avez été chef d'un camp des réfugiés en Angola.
Exactement, parce que c'est encore pendant que les tigres, les combattants du FLNC, est occupé.
On les appelle les tigres.
Les tigres. Ces mots ne représentent pas l'animal, mais c'est une abréviation qui veut dire troupe d'infanterie et de guérilla pour la résistance.
Ok.
Bon. Alors, pendant que ces gens étaient là, bon, toutes les activités étaient au point mort. Moi, comme préfet des études, j'avais une école avec toute une population de plus de 2000 élèves. Eh bien, les officiers de Tigre, à l'époque, ont commencé le recrutement au sein de mes étudiants. Tous mes étudiants.
C'était qui, à l'époque, le responsable?
À l'époque, le responsable, c'était le général Nathanael Mbumba. Mais il n'était pas lui sur le terrain. Il y avait ces officiers qui avaient dirigé les opérations, qui recrutaient alors pour envoyer les gens en Angola. Mm-hmm. C'est ainsi qu'ils ont recruté bon nombre de mes étudiants. Et moi-même, je suis parti.
Et en Angola, vous avez continué à donner cours? dans le camp des réfugiés?
Non. Quand nous sommes arrivés dans le camp des réfugiés, il faut vivre dans un camp des réfugiés pour connaître, pour comprendre, madame. On avait même pas de maison. On n'avait aucun moyen. Non, on n'avait pas de tente. On a construit des maisons de campagne avec la paille et tout ça. On a appris à faire ça. Et on a dû recourir à la Croix-Rouge, au HCR, pour obtenir les premiers soutiens logistiques dans le camp. Ce que nous avons fait, ce que je fais seulement, c'était organiser les camps pour qu'il y ait une sorte d'administration, pour qu'il y ait une représentation pour traiter avec les autorités angolaises et traiter avec les autorités internationales, des organismes qui pouvaient venir en aide, parce qu'on a connu beaucoup de souffrances dans ces camps-là. Nous étions près de 80 000 personnes.
Qui finançait ce mouvement?
Bon, celui qui finançait ce mouvement, c'était d'abord l'engagement que Moïse Tshombe avait avec le Portugais qui était là, qui dirigeait le pays, qui avait en fait conclu avec Moïse Tshombe la possibilité des ex-gendarmes katangais allaient rester là-bas en Angola. Et de l'autre côté, vous pouvez comprendre, il y avait aussi les Portugais qui avaient besoin d'une autre force auxiliaire pour pouvoir combattre les nationalistes angolais qui commençaient déjà aussi à mener la lutte de libération chez eux. Donc, je pense que ce sont ces deux côtés-là qui ont commencé à financer ces opérations.
Vous pensez ou bien c'est ça, puisque vous étiez sur place?
Quand je suis arrivé, c'était
vous
déjà...
Vous avez suivi aussi une formation militaire?
C'était déjà après l'indépendance de l'Angola.
De l'Angola.
C'était déjà après l'indépendance de l'Angola. Alors, à ce moment-là, il y avait sûrement le MPLA qui avait un engagement avec le FLNC, le MPLA qui avait été aidé par le FLNC pour la conquête du pouvoir d'État à Luanda. Eh bien, le MPLA, sûrement, donnait un soutien logistique au FLNC dans la gestion de toutes ces unités de troupes et tout ça.
Alors vous-même, en Angola, vous avez occupé des postes quand même assez stratégiques. Hein. Comment expliquer qu'un Congolais puisse occuper des postes assez stratégiques?
J'ai moi-même opté pour rester en Angola, travailler en Angola et continuer la lutte. Pourquoi? Parce que pendant que j'étais en Angola, et à la fin de la guerre de 80 jours, il y a un livre blanc qui était sorti ici et dans lequel moi j'étais cité comme quelqu'un qui a trahi la nation et qui s'est rallié avec les rebelles. Ce qui n'était pas vrai. Bon, alors j'ai moi-même demandé au président de la République d'Angola de rester en Angola comme exilé politique. Il a accepté, il m'a emmené à Luanda. Et alors à Luanda, à cette époque-là, l'Angola avait besoin des cadres. Moi j'étais un cadre formé, suis géologue de profession. Eh bien c'est ainsi qu'on m'a demandé si je pouvais travailler pour former les jeunes cadres angolais. Je n'ai pas trouvé de raison pour refuser, d'autant plus qu'ils m'ont offert l'hospitalité chez eux. Et moi, d'habitude, j'ai une vision progressiste, internationaliste.
Vous avez formé les premiers géologues angolais.
Exactement. Parmi les premiers géologues, les premiers ingénieurs des mines, j'ai beaucoup travaillé. Il suffit de voir comment je suis agréablement reçu quand j'entre dans ce pays-là.
En 1990, je crois, lorsque le général Mbumbe Nathanael décide de quitter l'Angola pour rejoindre le régime de Kinshasa, il y a eu comme un basculement au sein de FLNT. On avait l'impression que le mouvement commençait à disparaître.
Oui, pourquoi? Parce que après la première guerre du Chaba, la guerre de 80 jours, qui avait commencé le 8 mars et qui s'était terminée vers le 20 mai, il y a eu des compatriotes d'autres organisations politiques qui sont venues nous voir en Angola. Il y avait le feu président Kabila, il y avait notre doyen Antoine Gizenga, qui était venu en Angola avec l'espoir d'ensemble nous regrouper pour mener la lutte contre le pouvoir dictatorial de Mobutu. Malheureusement, celui qui était au top de notre organisation à l'époque, le général Nathanael Mbumba, n'a pas compris cela et il a improvisé, je dirais, la deuxième guerre du Chaba, qu'on appelle la guerre des six jours à Kolwezi. Et quand il a improvisé, alors qu'il avait été bel et bien instruit par les Angolais qui ne pouvaient pas le faire, eh bien, l'organisation FLNC avait été suspendue, ses activités suspendues en Angola.
Par les autorités angolaises?
Par les autorités angolaises. C'est ainsi que M. Mbumba va quitter l'Angola pour aller, d'abord je crois que c'est en Guinée-Bissau. Et par après, il s'est retrouvé là où il était, où il a pris le contact avec les envoyés de Mobutu pour rentrer finalement ici en 90. Mais pendant ces temps, vous voyez, nos activités militaires étaient totalement paralysées. Les gens qu'on avait dans le FLNC, pour la plupart, c'était des militaires. On ne pouvait que le concentrer dans des camps, essayer d'improviser d'autres activités agricoles et tout ça. Mais ça ne tenait pas tellement.
Au départ du général Mboumbou Nathanaël, c'est vous qui étiez à la tête du FLNC.
Oui, quand je suis resté en Angola après le général, je suis resté là-bas comme un représentant qui avait continué à défendre les intérêts du FLNC. Il y a eu d'autres cadres à l'époque qui étaient avec moi en Angola, qui se sont réunis et ils ont trouvé que moi je pouvais assumer les fonctions de secrétaire général du FLNC. Pourquoi? C'était pour permettre à ce que nous puissions rejoindre nos statuts qui disaient à l'époque que le président ne pouvait être élu que par un congrès. Donc moi je ne pouvais pas être président du FLNC, je pouvais être un secrétaire général du fait d'avoir été déjà un membre de la direction du FLNC, pour assumer, pour accompagner l'organisation, pour faire traverser l'organisation tous ces déserts-là et arriver à des possibilités d'organiser les congrès du FLNC. Donc moi je suis resté effectivement représentant du FLNC à titre de secrétaire général.
Radio Capi, grand témoin.
Alors, Henri Moukatchoung, vous êtes né à Elisabethville un certain 14 décembre 1949.
Exactement.
Et c'est là où vous grandissez, vous passez votre enfance.
Oui, j'ai grandi à Lubumbashi. J'ai fait mes études primaires à l'école officielle de la Katouba 2. J'ai fait mes études secondaires à l'Athénée de Katouba. Je viens les terminer à Colésie, au collège Jean 23, parce que mon père, à ce moment-là, on crée les provinces 7. C'est comme aujourd'hui, les fameux découpages. On crée les provinces 7. Nous revenons toujours sur les expériences que nous avons déjà vécues. On crée les provinces 7. Il y a la province du Lualaba. Mon père est de la province du Lualaba. On dit qu'il doit partir là-bas. Eh bien, il est parti au Lualaba. J'ai été obligé de quitter le Lubumbashi, d'arrêter mes études à l'Athénée de Katouba pour aller au collège Jean 23. Donc je termine mes études au collège Jean 23 en 70, d'où je sors comme diplômé pour...
En section pédagogique.
Exactement.
Et vous avez une licence en géologie et minéralogie au campus de Lubumbashi.
Exactement.
Quel souvenir vous gardez de votre enfance? Un souvenir qui vous a marqué?
Bon, il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est par exemple la rigueur de mon père.
Il est très rigoureux. Hein?
Très rigoureux avec moi.
Seulement avec vous ou bien avec vos frères aussi?
Surtout avec moi, parce que j'étais l'aîné. Mm-hmm. Je suis l'aîné de la famille, surtout avec moi.
Une famille de combien d'enfants?
Oh, une famille de 8 enfants. Donc mon père était rigoureux. Je commençais à comprendre après pourquoi est-ce que... Et il méritait de l'être parce que j'ai vu que beaucoup de mes petits amis à l'époque, dont les parents, les papas n'étaient pas rigoureux, ont fini par se perdre dans les rues. Mais mon père était très rigoureux. Il avait trop d'exigences sur moi et c'était vraiment... Je me croyais en
prison.
Vous
ne regrettez pas cette rigueur aujourd'hui?
Non, non.
Vous aussi, vous êtes rigoureux avec vos enfants?
Oui, vous savez... Dans la société actuelle, avec l'influence que la société exerce sur les enfants, il faut vraiment être rigoureux pour obliger les enfants de choisir la meilleure voie, la voie qui leur permettra de devenir des gens respectables et tout ça.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Bon, ce que je n'aime pas dans la vie, c'est l'incohérence dans la pensée. C'est l'inconstance, le manque de constance dans la procédure analytique des problèmes. Ça, je déteste parce que c'est vraiment une preuve de l'incapacité, de l'irresponsabilité d'une personne.
Alors, il vous arrive aussi d'écouter de la musique de temps en temps?
Oui, j'écoute souvent de la musique. Je passe tout mon temps à écouter de la musique.
Quel genre de musique?
Ah, les anciennes musiques que j'écoutais quand j'étais au campus, quand j'étais étudiant.
Franco, Grand Calais.
Oui, Franco, Calais, Lipois, le Soki et
les frères Soki.
Frères Soki. Oh, c'est ça, la musique que j'aime écouter.
Et quelle musique vous aimeriez qu'on vous propose, hein? Un titre
Sofele, par exemple. Sofele, de Frères Soki.
Vous aimez quoi dans la chanson?
Ben, parce que c'est une chanson qui éduque la population. Comment traverser la rue, qui éduque en même temps les chauffeurs, comment conduire.
Thank you. omeninga mwana ona nzela ya kelasi ngai komona moko kaka ya mobali nakosuka wapi babana oyo ya basi okusa koela mosolo tika bomonaka boyengo mama bino bato ya makolo mpe boyebaka liboso ya kokata tala ngambo na ngambo tala ngambo na ngambo tala gauche na droite tala ngambo na ngambo.
Radio Capi, grand témoin.
Alors, Henri Mukachung Mwambu, député honoraire et secrétaire général du Front des Libérations Nationales, FLNC. Oui. Vous avez passé 22 ans en Angola
oui.
avant de revenir au pays.
Oui.
Et vous êtes revenu au pays lorsque l'AFDL arrivait. Oui. On va parler un peu des relations entre l'AFDL et les FLNC. Comment ces deux mouvements se sont rencontrés?
Bon, après la première guerre du Chabat, il y a des compatriotes d'autres organisations, notamment le PRP de Laurent Désiré Kabila et à l'époque le PALU de Antoine Gizenga, qui ont décidé de venir en Angola pour voir si on pouvait tous ensemble conjuguer les efforts avec à l'époque des soutiens des pays progressistes du Nord qui avaient décidé de nous aider, si on pouvait faire un effort pour ensemble mener une action et mettre fin au pouvoir de M. Mobutu. De deux, à l'époque, en 96 exactement, moi j'étais le responsable du FLNC et je représentais le FLNC auprès de toutes les institutions angolaises. Eh bien, à l'époque, M. Laurent Désiré Kabila, le président Laurent Désiré Kabila, quand il trouve l'occasion d'initier une bataille, une lutte pour mettre fin au pouvoir dictatorial de Mobutu, lui aussi, il se souvient du fait que, à cette époque-là, il avait entrepris des démarches pour se rapprocher. Malheureusement, ça n'avait pas donné. Et il a aussi voulu que les gens du FLNC, les combattants, ses compatriotes qui étaient en Angola, ils savaient bien qu'ils existaient là-bas et qu'ils seraient tout à fait disposés de se lancer dans cette guerre-là. Eh bien, Laurent Désiré Kabila a dépêché en Angola, à Luanda, un monsieur que moi-même j'ai connu avant même qu'il ne vienne à Luanda, c'était le docteur Émile Ilunga. Prendre langue avec les gens du FLNC pour aller rejoindre Laurent Désiré Kabila dans le cadre de l'AFDEL qui venait d'être créé à partir de Kigali au Rwanda. Donc Monsieur Ilunga, docteur Ilunga, est venu à Luanda, il m'a informé, j'ai informé les combattants et les choses ont commencé. J'ai informé les autorités angolaises sur la nécessité, l'opportunité surtout, de voir cette guerre partir d'un autre pays que l'Angola. Et de voir nos gens s'allier aux autres, parce qu'en fait c'était ça, le fondement même du FLNC, c'est pour lutter.
Vous attendiez une occasion.
On attendait une occasion, mais cette occasion était difficile à partir de l'Angola, parce que l'Angola, après la deuxième guerre de 78, l'Angola a signé des accords avec les Zaïre de Mobutu. Le président Agostinho Neto est venu ici, il a signé les accords de bon voisinage. Donc on ne pouvait plus penser un seul jour à faire la guerre à partir de l'Angola.
Mm-hmm.
Voilà.
Et donc, comme ça, vous avez rejoint l'AFDEL.
C'est ainsi que nous avons combiné avec les autres dirigeants militaires qui étaient là pour commencer à envoyer les troupes Tigre vers Kigali et de là faire la descente sur les territoires congolais avec toute la logistique qui appartenait au FLNC, aux militaires Tigre et qui était gardée parce que nous avions déposé les armes après 78. Les armes étaient gardées. Tout ce que nous avions comme armement, tout ça, ça a été transporté sur Kigali pour servir dans le cadre de l'AFDEL.
Alors, arrivé à Kinshasa, vous vous êtes dit l'objectif est atteint. Lorsque vous avez renversé le régime de Mobutu.
Oui, c'était pour nous, les FLNC, c'était le premier objectif. Ce n'était pas l'objectif totalement, dans sa totalité. La première étape, il fallait d'abord renverser, mettre fin à la dictature. Et on ne pouvait pas mettre fin à la dictature sans renverser Mobutu. Donc on a mis fin à la dictature. Mais maintenant, il fallait les autres étapes qui devaient être préparées avec la participation du peuple congolais. En créant des conditions qui donneraient la possibilité au peuple congolais de manifester, de faire voir sa créativité. Après la dictature de Mobutu, après le 17 mai, nous aspirions à instaurer, restaurer la démocratie dans notre pays, parce que notre pays a commencé avec la démocratie. On a renversé la dictature, on devait restaurer la démocratie. Qui dit restaurer la démocratie, dit bien permettre aux partis politiques qui sont
de fonctionner.
Mais les partis politiques ne pouvaient pas fonctionner sans un cadre juridique précis. La Constitution. Donc, nous avions pensé qu'il fallait arrêter d'abord l'exercice des activités politiques.
Élaborer une constitution
qui serait acceptée par les peuples congolais, par tous les animateurs politiques, et alors se relancer dans les activités politiques normalement.
Mais les partis politiques n'étaient pas d'accord avec cette décision de mettre fin aux activités politiques.
Oui, le parti politique ne pouvait pas l'accepter.
La première étape, c'était renverser le régime de Mobutu. Vous l'avez renversé.
Oui.
Deuxième étape, instaurer la démocratie. Est-ce que vous l'avez instauré?
Oui, exactement, parce que au moins aujourd'hui, j'entends, je vois tout le monde manifester librement son option politique.
Alors, Monsieur Mukachung Henri, vous êtes secrétaire général du FLNC. Mais en fait, à un moment, on nous a présenté quelqu'un d'autre comme étant secrétaire général de ce même parti, Monsieur Elie Kapend.
Non, Monsieur Kapend n'a pas été présenté comme secrétaire général de ce parti. C'est plutôt, il a été présenté comme président même du FLNC, président du FLNC. Alors, madame, il y a dans ce pays des aberrations, des incohérences bizarres. Mais c'est comme si les gens agissaient sous pression, sous un certain automatisme, et ils perdent la réflexion. Quand nous revenons sur, par exemple, l'histoire de l'AFDL, on sait que l'AFDL est venu ici avec le FLNC comme parti déterminant dans l'action militaire. Et on sait qui sont venus à partir de Kigali comme représentants du FLNC. Cadre politique, qui était même proche de Laurent Désiré Kabila. On le sait. Bon, à un moment donné, Laurent Désiré Kabila meurt, le président Joseph prend le pouvoir, par peut-être le fait de ne pas bien connaître cette affaire-là, cette histoire-là, il y a des gens qui s'improvisent. Des gens qui s'improvisent comme, je dirais, décideurs sur les FLNC. Le président du FLNC, M. Nathanaël Mbumba, nous l'avons trouvé ici, en 97. Il était toujours président du FLNC parce que le FLNC n'avait jamais fait son congrès pour désigner un autre président. Pendant que nous étions ici, à la présidence de la République, on commence l'idée d'aller chercher un président du FLNC qui était en Angola. Moi-même, j'étais aux affaires, j'étais parlementaire. J'étais parlementaire dans le Parlement sous mandat du FLNC. Il savait bien, tout le monde le savait bien. Je n'étais pas le seul, nous étions plus de 4 ou 5. Eh bien, on décide d'aller, nous disons, non, le président est là, M. Nathanaël Mbumba. Il est là, jusqu'à ce que nous allons l'appeler un jour pour qu'il nous explique pourquoi il nous a quittés, pourquoi est-ce qu'il a fait ça. C'est comme ça que ça doit se faire dans le parti politique.
Et donc, M. Elie Kapend, c'est un président qu'on vous a imposé par la présidence?
Tout à fait. Nous ne sommes pas nés hier, madame. Nous ne sommes pas nés hier. On nous dit, c'est le président du FLNC. Nous disons, non, il n'est pas président du FLNC. Nous écrivons, nous voyons les personnes qui ont monté cette cabale-là pour leur dire, est-ce que vous n'avez même pas honte que vous amenez ici un président du FLNC pendant que M. Nathanaël Mbumba est ici, pendant que vos archives au ministère de l'Intérieur disent que président du FLNC, Mbumba Nathanaël. Dans quelle partie du monde vous avez vu des choses comme ça? Oh non, il faut laisser, nous savons. Non, vous ne pouvez pas nous dire nous savons parce que nous, ça devrait être nous-mêmes du FLNC. Pas des gens, des camarades, des amis comme ça. Non, ça ne se fait pas. Mais il a été bien imposé, bien logé, bien nourri et tout ça, pendant que le président du FLNC, Mbouma Nathanaël, courait la rue à pied. Nous comprenons très facilement quand est-ce qu'on fait l'entrisme pour essayer de provoquer une explosion. Nous savions.
Et pourquoi on avait refusé au candidat du FLNC de se présenter aux élections législatives de 2006 et 2011?
Parce que après que nous ayons dit que M. Eli Kapend, bien que nous le connaissons, n'est pas président du FLNC, nous avons même montré des documents écrits par lui-même disant qu'il n'est pas président du FLNC. Après avoir prouvé ça, M. Eli Kapend a parlé à la presse en disant que... Il a fait des déclarations à la presse disant avoir pris le pouvoir et être devenu président de la République. Eh bien, on sanctionne le FLNC. On dit non, le FLNC, finalement, on croyait qu'il est dans les camps présidentiels. Le FLNC, finalement, donc, il fait le double jeu. M. Kapenda Eli est arrêté. Le FLNC, on met la trace dessus. Vous ne pouvez pas avoir les moyens logistiques qui étaient décidés dans notre famille politique pour aller aux élections. Nous sommes restés. Qu'est-ce que nous pouvions faire? Nous, marquer une incohérence, commencer à parler, alors que nous sommes toujours définis comme étant de la composante ex-gouvernement, partout où nous étions, nous avons voulu voir, parce que les mêmes causes, généralement, entraînent les mêmes conséquences. Ça ne valait pas la peine de se mettre dans cette dispute. Donc, nous avons laissé. M. Kapendeli est resté dans sa prison, quelque part ici à la Gombe, et il y a eu le trouble entre les troupes de M. Mbemba et les troupes du gouvernement. Kapenda Eli a été libéré. Kapenda Eli a été repris par les mêmes services de la présidence de la République. Après avoir été en prison pour avoir trahi, il a été repris, il a été relogé. Mbouma Nathanaël a perdu sa tête, il a quitté le pays, il est parti.
Alors, M. Henri Moukachung, on accuse les tigres, ce sont vos gens, les gens du FLNC, de vouloir chercher la sécession du Katanga. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe finalement?
On dit souvent qu'il veut abattre son chien, l'accuse de rage. Le FLNC est constitué des gens conscients, des gens cohérents. Quand nous disons Front de Libération Nationale, le Katanga n'est pas une nation. Le Katanga est entité faisant partie de la nation congolaise. C'est accepté, admis par tous les Katangais. La preuve en est que Moïse Tshombe, qui a créé la sécession pour faire un État, a mis fin à cette démarche-là. Il est venu ici. Donc aujourd'hui, quiconque veut justifier son action, quiconque veut ternir l'image du FLNC, on dit non, ce sont les tigres. Ce sont les tigres. Mais demandez, posez la question à ceux qui font circuler ces rumeurs-là. Peuvent-ils, ont-ils pu présenter un seul tigre du FLNC dans ces affaires-là? Non, madame. C'est pour distraire les gens. Le FLNC sait ce qu'il veut. Et le FLNC ne va pas mourir de par la volonté de quelques individus qui pensent que le FLNC est réellement un danger pour eux.
Mais si je vous comprends, vous n'êtes pas satisfait de tout le combat que vous avez mené depuis l'Angola jusqu'à la libération avec l'AFDEL.
Je suis satisfait du combat que nous avons mené pour libérer, arriver à Kinshasa, mettre fin à la dictature. Je suis très très fier de ce combat-là. D'ailleurs, pour ce combat-là, je porte une médaille d'or des combattants de la libération nationale. Mais le reste du combat, quand on s'engage dans un combat, un quelconque combat, il faut d'abord savoir qui est son ennemi. Il faut d'abord identifier réellement l'ennemi. Après l'avoir identifié, vous devez savoir qui sont ses amis, avec qui il travaille, quels sont les moyens dont il dispose. Quand vous n'avez pas encore fait cela, vous allez vous battre pour vous épuiser, pour rien. Et vous n'aurez jamais de succès dans le combat. Est-ce que les Congolais ont-ils réellement identifié leurs ennemis? Leurs ennemis? Moi, je pense que non. Alors, à ce moment-là, je ne suis pas fier d'être Congolais.
Moukachung, vous avez été nommé député de la CLPT en juillet 2000 et désigné député sur la liste du gouvernement en juillet 2003, si je ne me trompe pas.
Oui.
Dans cette assemblée, vous étiez vice-président de la commission défense et sécurité.
Oui.
Mais il y a des gens qui disent que vous avez renoncé à votre appartenance au FNLC pour rejoindre le PPRD.
Non, je ne peux pas renier mon appartenance au FNLC sans qu'il y ait eu d'abord le congrès du FNLC. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est nous, les anciens du FNLC, qui avions décidé, quand il y avait les négociations à Sainte-City, nous avions décidé qu'il fallait que le président ait un parti politique à lui. Madame Matoukou, si elle me suit, et cette lettre est venue par ses mains jusqu'à la présidence de la République, où on a tout fait pour qu'il n'y ait aucun membre du FLNC là-dedans. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils savaient ce qu'ils pouvaient faire avec les gens du FLNC et ce qu'ils ne pouvaient pas faire avec ces gens-là. Et c'est ainsi qu'est né le PPRD. Donc moi, je ne pouvais pas appartenir en même temps au FLNC et au PPRD. Moi, je suis secrétaire général, je détiens des grands secrets du FLNC. Je ne peux pas quitter le FLNC sans avoir remis ces secrets à celui qui viendra ou qui viendrait me succéder. Ce n'est pas normal.
Alors, monsieur Henri Moukachung, nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un mot à tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment sur Radio Capping?
Le mot que j'ai est que nous devons faire attention sur ce qui se passe à l'est de notre pays. On ne peut pas se réveiller chaque matin et entendre parler seulement que des viols, des vols, des tueries, de ceci, de cela, à l'est du pays. Ça doit préoccuper tous les Congolais, en commençant par ceux qui dirigent le pays. La douleur des gens de l'est, nous devons la partager. Et moi, je pense que la communauté internationale doit s'impliquer sérieusement pour mettre fin à la situation qui règne maintenant à l'est. Le pouvoir de Kinshasa doit s'impliquer pour mettre fin à ce qui se passe à l'est. Sans cela, c'est l'épine que nous avons sous notre pied pour nous mettre debout. On ne se mettra jamais debout et on va continuer à adhérer à du n'importe quoi, mais sans trouver la solution.
Henri Moukachung, je vous remercie.
Merci, madame.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Henri Moukachung, député honoraire et ancien dirigeant du Front des Libérations Nationales Congolais, FLNC en sigle. Merci à Sylvain Matundu qui est à la technique au micro, Kéline Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocavi.net. Bon dimanche à tous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.